Je rêve d'une lune de miel en Polynésie.
Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon.
Vous lisez dans mes pensées. Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée.
Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti.
Oh, ne me réveillez surtout pas.
Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble.
Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout?
Oui. Avec Marco Vasco, vivez votre voyage d'esprit libre.
Vous faites les mariages aussi?
Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.
André Dodd, bonjour.
Bonjour.
La vue du bonheur pour vous, si vous regardez à travers une fenêtre, voilà, qu'est-ce qui, décrivez-moi une vue, des émotions.
Ça sera assez simple, c'est voir mes proches, voir mes enfants, mes trois enfants, ma femme, dans notre maison dans le sud de la France, et puis voilà, du beau temps et du soleil.
Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec mon invité aujourd'hui, André Dodd, président de Velux, le fabricant de fenêtres de toit. Depuis trois ans, vous avez pris vos fonctions à un moment un peu particulier. Je crois que vous faites partie de ces gens-là. Il y a des dirigeants comme ça où ils ont pris leurs fonctions à peu près au pire moment, vous diriez, ou alors simplement un peu inédit, quoi.
Bah, vu de l'extérieur, c'est le pire moment.
Au moment de la crise sanitaire, je précise.
Voilà, c'est ça. Je suis arrivé le 2 mars 2020, donc 15 jours, 3 semaines avant le premier confinement. Donc oui, ça a été un peu particulier, mais en même temps, ça m'a permis d'avoir un lien un petit peu différent avec les équipes. Donc je ne dirais pas que c'était la pire introduction.
Parce que vous avez eu quelques jours, en fait, pour faire votre...
Voilà, je suis arrivé, j'ai fait 15
jours. De
jours, je ne pouvais pas serrer les mains déjà à l'époque, on avait des mesures de sécurité, donc j'aime bien, je suis plutôt du Sud, donc j'aime bien aller au contact des gens. Donc je n'ai pas pu leur serrer la main, et 15 jours après, on s'est séparés pour quelques mois.
Pour quelques mois, absolument, et donc vous êtes toujours président de Velux.
Absolument.
Cette crise sanitaire n'a rien changé pour vous. C'était un sacré mouvement, parce que avant cela, vous étiez dans le groupe SEB depuis l'an 2000.
Oui, c'est ça. J'ai passé une grosse vingtaine d'années, un petit peu avant même, une grosse vingtaine d'années chez SEB. Après, il n'y a pas tant de différence que ça. C'est-à-dire que le fil rouge dans ma carrière, ça a toujours été de travailler sur des produits d'équipement de la maison, des marques fortes. Mmh. Ça a été les salles de bain, ça a été l'électroménager, effectivement, pendant une grosse vingtaine d'années. C'est les fenêtres de toit. On a envie de dire chez Velux, et ce n'est pas de l'arrogance, qu'on vend plus de l'espace. Mmh. Nous, notre métier, c'est de transformer des espaces sous les toits un espace à vivre.
Ouais, parce que qui dit fenêtre de toit traduit une volonté d'aménager des combles, des choses comme
c'est
ça,
exactement
d'optimiser,
ça.
D'agrandir
c'est ça.
Des parties d'une maison, de bâtiments qui étaient jusqu'alors inexploités la plupart du temps.
C'est l'idée depuis l'origine en fait. On est une entreprise danoise qui a été créée en 1941 au Danemark. Et l'idée au départ, et le nom d'ailleurs du produit reflète bien cette idée, Velux, c'est VE pour ventilation et Lux pour lumière. Donc l'idée c'est vraiment de transformer les espaces grâce à la lumière naturelle et l'air frais qui viennent de l'extérieur. Et en 1941, le fondateur, il a cette idée, c'est la guerre, problème de matériaux, besoin de mètres carrés, et un des premiers projets sur lesquels il travaille, c'est d'aménager une école sous les combles, en créant des ouvertures.
Donc c'est la guerre qui a conduit à cet esprit entrepreneurial de...
Absolument.
D'accord.
Il y a toujours eu, dans notre histoire, il y a toujours eu ces fenêtres d'opportunité, contraintes dans la plupart des cas, ça a été la guerre en 1941, En 64, on s'implante, c'est mon âge, on s'implante en France. Et là, on est plutôt dans la fin des 30 glorieuses. On est dans un besoin de créer du mètre carré, de créer de l'habitat. On est dans le baby-boom aussi. Et donc, ça propulse Velux dans l'histoire qu'on connaît encore aujourd'hui, en particulier sur les régions du nord de la France, la Bretagne et l'Est, où l'architecture était plus propice. Et aujourd'hui, on est encore dans une fenêtre comme ça, avec tout ce qui se passe autour de nous, le climat, la planète, l'artificialisation des sols, enfin, il y a plein de sujets.
On reparlera de ça tout à l'heure, mais simplement, vous, André Dodd, pourquoi, donc vous m'avez dit, donc SEB, c'est équiper la maison, oui. Effectivement, on voit bien le fil rouge, mais pour quelle raison précise est-ce que Velux a fait appel à vous? Pour quelles compétences, pour quelle transformation, quelle innovation, qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire?
Je dirais que j'imagine, il faudrait poser la question à d'autres qu'à moi, mais ce qui les a probablement intéressés dans mon profil, c'est l'orientation grand public que j'avais. Et c'est le virage qu'on est en train d'essayer d'opérer. C'est-à-dire qu'on a longtemps été considéré, et on l'est, comme un industriel qui sait fabriquer de la fenêtre de toit, plus tous les accessoires qui vont avec, il ne faut pas les oublier, les stores, les volets, etc. Et notre circuit de distribution est un circuit long. On vend à des distributeurs qui vendent à des installateurs qui vendent à du grand public. Donc ça reste vrai.
Ouais.
Par contre, nous, notre stratégie, elle est d'aller de plus en plus dans le contact vers le consommateur final, de lui apporter un service, un conseil, peut-être un petit peu meilleur que ce qu'il a aujourd'hui, tout en restant fidèle à nos distributeurs et à nos installateurs professionnels. Donc c'est sans doute doute ça qui a pu attirer dans mon profil, à un moment donné, les décideurs de Velux. C'est cette orientation un petit peu plus grand public que j'avais par mes 20 ans dans ma boîte précédente.
Et donc, est-ce que la fenêtre de toi, je parlais tout à l'heure d'exploiter des combles, donc on pense à une maison de campagne, des choses comme ça, en vérité, la fenêtre de toi, c'est aussi valable, on a à Paris, par exemple, il y a aussi un marché, c'est pas uniquement...
Non, le marché, il est partout. Le marché, encore une fois, il est lié au fait qu'on a besoin de mètres carrés, on a besoin de protéger le climat et de faire en sorte que on aille chercher les mètres carrés plutôt en hauteur que sur le sol. Encore une fois, ce sujet d'artificialisation des sols, il est fondamental. C'est un des engagements du gouvernement français en 2050 d'avoir zéro artificialisation nette. Et donc, il y a un gisement qui est juste gigantesque de mètres carrés sous les toits. Allons chercher en équipant ces espaces.
Donc, si je vous écoute bien, vous dites pour protéger le climat... Au lieu de construire, construisons là-haut, là où c'est possible, parce que parfois ça ne l'est pas.
Oui, tout à fait. Alors, ça serait présomptueux de dire que la solution, elle est uniquement par nos produits. Et on essaie, nous, de porter un message qui va au-delà de nos produits, qui contribue à la réflexion du gouvernement sur MaPrimeRénov', sur essayer de... Enfin, comment on peut utiliser l'argent public pour atteindre nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et aménager les toits, que ce soit avec ou sans fenêtres, est un des éléments fondamentaux. Mais pas plus, pas moins que l'isolation des murs, que le changement des menuiseries, que l'isolation du plancher bas, que le changement du système de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire et de ventilation générale. Donc c'est ce sur... On a l'impression que le gouvernement est en train d'avancer là-dedans. Ils appellent ça le volet performance de MaPrimeRénov' 2024. Ouais. Et on retrouve ces parcours de rénovation qui pour nous sont extrêmement importants.
Vous le disiez tout à l'heure, donc Velux, c'est une entreprise danoise. Est-ce que cet esprit, cette culture danoise, vous la ressentez, vous, chez Velux, et comment ?
Alors,
en quoi est-ce que Velux, c'est une entreprise danoise dans la culture d'entreprise, dans le management ?
Je dirais pas qu'on ressent le côté danois. On ressent le côté très particulier de la gouvernance propre à Velux.
Qui a quoi de spécifique, du coup ?
Voilà, je vais vous l'expliquer, parce que vous m'avez posé la question sur pourquoi Velux est venu vous chercher. Vous auriez pu aussi me inverser la question, pourquoi moi j'ai été intéressé à aller chez Velux ? Et un des éléments, c'est précisément le modèle de gouvernance qui est assez répandu dans les pays nordiques et peu en France. Dans les années 70, le fondateur originel de l'entreprise, dans les années 40, pour gérer la succession et la pérennité de cette entreprise, il a créé des fondations. Et donc la société Velux aujourd'hui appartient à des fondations qui ont été créées dans les années 70. Et donc chaque année, 80-90% des bénéfices que nous générons sont redistribués à des œuvres, à la science, à la gérontologie, à l'environnement, en France plus particulièrement à du mécénat, à les vitraux de la Sainte-Chapelle,
l'hôtel de la Marine. Dans l'essence de
l'entreprise. Ouais. Avec cette idée générale qu'on retrouve dans les entreprises à mission aujourd'hui en France, que finalement, si on est là, si on prospère, c'est grâce à ce que notre environnement direct nous apporte, et les produits qu'ils nous achètent, et finalement, on va leur rendre chaque année 80 à 90% de ce qu'ils nous apportent. Et c'est ça, on le ressent au quotidien dans l'entreprise, plus que le côté danois.
Velux, ça a une particularité aussi, c'est que c'est une entreprise qui a un nom. Il y a des entreprises, il y a Jeep, comme ça, au hasard, Kleenex, par exemple. On ne parle pas de l'entreprise, on parle du mot. C'est devenu un mot qui passe dans le quotidien des gens. Donc, une Jeep, tout le monde sait ce que c'est, on sait que c'est une voiture. Un Velux, on sait que c'est une fenêtre. Est-ce que le fait d'avoir une entreprise, d'être patron d'une entreprise qui est un mot, dans le langage commun des gens, est-ce que c'est une force ou pas ? Voilà. Qu'est-ce que ça change ?
Je dirais que si je devais choisir, je préfère être dans cette situation que dans une situation où la marque ne veut rien dire. Ouais. Donc c'est plutôt une force. En même temps, c'est un risque. Vous parliez, quand je suis arrivé en mars 2020, un des premiers messages qui m'a été passé à mon arrivée, c'était de faire attention, de jamais dans nos mails, dans nos communications, dire on a vendu X Velux, mais de dire on a vendu X fenêtres de toit Velux.
Ah, donc en interne, ça ne s'utilise pas.
En interne, ça ne s'utilise pas. Parce que le risque pour nous, il est que le consommateur, la marque finalement, elle passe derrière, et que pour lui, fenêtre de toit, ça soit équivalent à Velux, et que du coup, notre marque, elle se dilue. Alors qu'on essaie d'investir beaucoup dans l'innovation, dans la recherche, et parce qu'on a des concurrents, on n'est pas au contraire de ce que beaucoup de gens pensent, Velux n'est pas tout seul, on a des concurrents allemands, polonais, asiatiques, et donc on a besoin de se différencier vis-à-vis d'eux. Donc c'est plutôt une force, quand même, mais il y a un risque si on n'y prend pas garde.
Mmh, il y a un risque si on n'y prend pas garde. L'innovation oui. Chez Velux, ça passe par quoi ? Comment est-ce que, parce qu'une fenêtre de toit, on pourrait dire, c'est tout simple, quoi. Je veux dire, il oui. y a pas grand-chose à changer à la recette, mais vous allez me dire tout le contraire, je le sais bien.
Absolument. Ben, l'innovation, ça serait peut-être un peu trop technique de rentrer dans les détails, mais c'est dans la performance de nos produits, la performance énergétique, la performance contre le bruit, la durabilité. Mmh. Et donc ça, c'est des efforts au quotidien. C'est en termes de design aussi, encore une fois, dans l'esprit des consommateurs, une fenêtre de toit Velux, c'est une petite lucarne avec des dimensions qui se rapprochent. On a lancé il y a quelques années des balcons. Alors c'est difficile à expliquer comme ça, mais en réalité, vous avez deux fenêtres qui s'ouvrent et ça vous fait un balcon. On a lancé il y a 2-3 ans des verrières où on a, dans une seule armature, on va avoir 3 ouvertures ou on va en avoir 2. Voilà. L'innovation, elle est là. C'est soit la technique, soit le design.
Donc la fenêtre sur toit, balcon.
Oui, balcon. On l'appelle cabri. Oui. Dans notre jargon. Voilà.
À une époque, vous avez employé le terme durabilité.
Oui.
Est-ce que c'est ça aussi qui fait foi quand on achète quelque chose, on veut que ça dure aujourd'hui, peu importe le produit. Pour vous, j'imagine que quand on vend une fenêtre, un client, l'idée, c'est pas de la changer au bout de 3 ans, c'est quelque chose qui s'inscrit.
Vous avez raison, il y a à la fois cette idée que nos produits sont de qualité, ils vont durer 25, 30, 35 ans. Il y a, comme je vous l'ai dit, l'entreprise en France, elle est créée en 64. Il y a un gros effet au début des années 70, où on commence à rénover, où il y a l'explosion des maisons individuelles. Donc il y a des volets aujourd'hui, il y a des fenêtres aujourd'hui qui sont posées dans ces maisons des années 70 qui sont encore actives. Après, par rapport à nos enjeux d'économie d'énergie, ces maisons aujourd'hui, construites dans les années 70, avec des fenêtres de toit ou sans fenêtres de toit d'ailleurs, les maisons qu'on appelait à l'époque les maisons Phoenix, une partie de ces maisons sont aujourd'hui des passoires énergétiques. Donc on a un enjeu collectif considérable à changer, à rénover ces maisons, et dans certains cas, des fenêtres de toit des années 70 comparées à aujourd'hui n'ont rien à voir en termes de performance énergétique.
Il nous reste une petite minute, André Dot, j'ai lu, donc en France, il y a un tiers des combles qui sont aménagés et un tiers des combles qui restent à aménager. Oui. Ce fameux tiers restant,
c'est ça.
Il est où ?
Il est partout. Il est partout en France. Il y a 20 millions de maisons individuelles. Il y a 3 tiers, on va dire ça comme ça, comme dirait Pagnol. Un tiers avec des combles aménagés, un tiers avec des combles aménageables, un tiers avec des combles non aménageables ou des toits plats. Donc sur les combles aménagés, il y a à peu près 6 à 7 millions de maisons et il y a à peu près 100 millions de mètres carrés disponibles si, au lieu de les mettre sur le terrain, sur le foncier. On peut aller les chercher en hauteur.
André Dot, donc patron de Velux, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite une excellente fin de journée.
Merci.
Je rêve d'une lune de miel en Polynésie.
Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon.
Vous lisez dans mes pensées ? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée.
Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti.
Oh, ne me réveillez surtout pas.
Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble.
Mais j'ai trop hâte ! On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout ?
Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage d'esprit libre.
Vous faites les mariages aussi ?
Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.